Résonance. Une émission de résonance contemporaine sur Radio B, au microphone Alain Goudard. Le monde est plein de voisins discrets avec qui il faut partager l'autre. Le monde est précisément cela, une contrainte de partage. Cette réflexion du philosophe Roland Barthes sera le fil conducteur de notre émission d'aujourd'hui. Une réflexion pour observer comment la culture, l'art peuvent nous conduire à développer notre capacité d'écoute, d'être à l'écoute d'une autre personne, avec une telle ouverture qu'on y risque sa propre transformation. Et que par là même, la culture, l'art, les pratiques artistiques sont des espaces possibles justement pour prendre conscience que la connaissance des autres n'est pas simplement une voie possible vers la connaissance de soi, mais elle est la seule. Comment les lieux de culture abordent et travaillent cette question? Comment les arts, les pratiques artistiques peuvent nous aider à redécouvrir le rapport à autrui, à l'autre, à comment réapprendre à cultiver l'art et la rencontre et découvrir à travers cette expérience que c'est une position productive de vitalité propre. Alors aujourd'hui, nous avons deux invités pour évoquer cette question et j'ai le plaisir d'accueillir au téléphone Mathilde Houdin qui est attachée à l'action culturelle au Centre culturel de rencontre d'Ambronay. Bonjour Mathilde Houdin.
Bonjour Alain Goudard et merci beaucoup de m'inviter aujourd'hui.
Merci surtout à vous d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous pour essayer de cheminer autour de cette question du philosophe Roland Barthes. Alors il est vrai que dans l'Ain, tout le monde, et même bien sûr bien au-delà de l'Ain sur le territoire national et international, on connaît le Festival d'Ambronay qui est un festival d'une grande renommée dans le champ de la musique baroque mais qui s'ouvre aussi à bien d'autres domaines sur le plan musical. Et aussi à ses côtés, au fur et à mesure des années, s'est mis en place un centre culturel de rencontre qui, lui, bien sûr, a mis en place un grand nombre d'activités, bien sûr, tout en étant en lien avec le projet culturel du Festival d'Ambronay. Des résidences d'artistes, des accueils de séminaires, de colloques d'entreprise, beaucoup d'actions culturelles et éducatives, donc, sont venues prendre place aux côtés de ce moment important de la vie culturelle du département de l'Ain. Et donc, bien sûr, des publics très différents, d'enfants, des adolescents, des personnes aussi en situation de handicap, viennent justement participer à des projets en regard du patrimoine qu'est cette abbaye et bien sûr, les arts en même temps. Donc le centre culturel de rencontre d'Ambronay est un lieu à la fois patrimonial et aussi artistique où la musique bien sûr a toute sa place. Mais peut-être que Mathilde Houdin, vous pouvez peut-être nous dépeindre comment petit à petit aux côtés de cette belle entreprise musicale et associative qu'est le Festival d'Ambronay a pris forme progressivement cette posture de centre de culture et de rencontre à Ambronay.
Oui, tout à fait. Le Centre culturel de rencontre d'Ambronay est tout d'abord une association, l'association Art et Musique, qui est née en 1980 du désir d'un groupe d'amis de faire revivre la musique ancienne. C'est un projet qui a périclité et qui a en effet donné naissance au Centre culturel en 2003. C'est en fait un label qui est décerné par le ministère de la Culture à des structures culturelles qui ont une thématique précise. Et donc nous sommes bien entendu axés autour de la musique baroque, de la musique ancienne, mais pas seulement, comme vous l'avez dit, parce que on va travailler aussi avec d'autres thématiques. On va partir de la musique médiévale jusqu'aux musiques contemporaines avec de la création. Et puis surtout, ce projet de centre culturel de rencontre, il nous permet de mettre en valeur et de faire rayonner un patrimoine historique puisqu'on se trouve au sein d'une ancienne abbaye bénédictine qui date du IXe siècle. Donc notre mission, c'est vraiment de permettre, de favoriser une interaction entre des artistes qui viennent d'univers différents, des publics qui sont très variés, comme vous l'avez dit. On va travailler avec des très jeunes, donc des publics scolaires à partir de la maternelle, jusqu'aux EHPAD, donc ça a vraiment un très grand panel. Sans oublier tout ce qui est de la pratique amateur, en travaillant par exemple avec des chorales amateurs, des écoles de musique. Donc on a un public en effet qui est divers et varié, suivant aussi les projets qu'on va mettre en place. Mais en effet, cette labellisation nous a permis de développer l'ensemble de nos activités. Et en effet, on va avoir de nombreuses résidences d'artistes qui vont nous permettre d'accentuer la transmission de connaissances des artistes. Sur à la fois des artistes confirmés avec des projets autour d'artistes associés, avec qui on va travailler sur plusieurs années, mais également des artistes émergents, de jeunes talents issus de l'Europe, qui vont venir à Ambronay pour des temps de formation, de résidence, et on va pouvoir du coup travailler des expérimentations. Et le but va être vraiment également de les aider dans leur pratique, musicale.
Lorsqu'on vous entend justement énumérer un petit peu tout ce qui a pris place au sein, comme vous le souleviez au tout départ, d'une association d'amis autour de l'envie de défendre la musique baroque, on sent, et je fais le lien avec la phrase introductive de Roland Barthes donc en ce début d'émission, que effectivement le monde est précisément cela, disait-il, une contrainte de partage. Et on sent bien que avec l'ensemble des acteurs que vous avez dépeints, et qui se trouve mêlé dans différentes actions, que là aussi, et il ne porte pas son nom pour rien finalement, centre culturel de rencontre, que la rencontre est effectivement au cœur du sujet. La rencontre, quelle qu'on soit, quels que soient d'ailleurs les âges, les individus, et que là, il y a peut-être un enjeu effectivement de placer que les activités artistiques effectivement doivent être partagées, et que qu'on soit professionnel, qu'on soit amateur, qu'on soit peut-être dans la tout jeune enfance et que l'on essaye de s'aventurer aussi dans des manières de dire comment l'on ressent les choses, les émotions ou le regard qu'on pose tout simplement sur la vie du quotidien, qu'il y a là des enjeux très importants justement.
Exactement, en fait, vraiment le cœur de notre mission, c'est vraiment le partage, c'est de faire renaître à la fois cette musique historiquement informée, mais également toutes les autres sortes de musique, les faire revivre, leur redonner leur place au sein de cette société, et aussi faire comprendre de quoi il s'agit, et à la fois transmettre à la fois des connaissances, mais vraiment une idée que cette musique, elle n'est pas seulement retravaillée par des musiciens pour rester dans un petit groupe, mais vraiment être transmise à tous et expérimentée aussi. Vraiment, c'est vraiment un élément très important à Ambronay, c'est vraiment que les publics aussi puissent eux-mêmes expérimenter cette musique.
Du coup, on peut dire aussi qu'il y a eu l'envie de partager ces langages, enfin d'ouvrir, que ça ne reste pas que de l'ordre du langage de spécialiste, bien entendu, mais que ça va travailler aussi les modes relationnels, et que par là aussi, des qualités, des valeurs vont, parce qu'elles sont partagées, parce qu'elles sont vécues, parce que ça devient aussi des expériences communes, elles vont être fondatrices aussi de l'expérience d'un groupe humain, finalement.
Oui, tout à fait. C'est par cette expérience et ce ressenti que l'on permet d'avoir cet accès à cette musique et qu'on crée un lien aussi avec la personne.
Et là, oui, vous touchez aussi un autre aspect important. Vous insistiez tout à l'heure qu'au fur et à mesure aussi des années, on le disait, le chant de la musique baroque est le socle, si je peux dire, premier. Il le reste, bien évidemment. Mais, vous évoquiez la création, des démarches de création, des démarches très différentes aussi, avec une multiplicité d'artistes, va aussi se mettre en place et dans le cadre de ces chantiers, de ces projets, que chacun va pouvoir découvrir qu'il est aussi un être singulier au travers de ces différentes expériences, qu'il va pouvoir mettre mettre en avant sa singularité et aussi que dans un groupe, il y a une multiplicité justement de singularités qui sont présentes, qui sont là et que bien sûr, ça met en tension, ça fait ressortir, ça promeut, ça fait travailler, mais que finalement, le projet artistique aussi, il est fort aussi de cette expérience et de ces hétérogénéités qu'on pourrait dire qu'à un moment donné, elles ne pourraient peut-être pas se rencontrer, mais le fait aussi des disciplines artistiques, et en l'occurrence la musique, va permettre de faire rencontrer toutes ces singularités.
Oui, tout à fait. Ce côté que vous développez, on le perçoit notamment surtout dans les projets d'action culturelle qu'on va mettre en place, et notamment par exemple les projets d'éducation artistique et culturelle qu'on va mettre en place toute l'année, où on va vraiment essayer de conjuguer des projets qui vont être pluridisciplinaires autour de la musique, mais aussi d'autres axes tels que forcément le chant, ça peut être aussi la gastronomie, ils sont vraiment divers et variés, et on va travailler avec des groupes qui vont être très hétérogènes, puisqu'en fait l'intérêt c'est aussi de mixer les différents publics pour pouvoir justement faire naître des rencontres, provoquer des projets transgénérationnels, et aussi du coup placer en effet la personne au cœur de la réflexion et aussi au cœur de la création, parce qu'on a envie aussi de partir de la singularité de la personne et de voir en effet comment on peut l'intégrer au projet, comment ses connaissances, sa culture peuvent être aussi des éléments nourrissants, des éléments d'expérimentation pour les artistes.
Donc du coup, il y a une envie de favoriser les oser, les désirs de s'aventurer, les oser faire, les oser dire, puis en même temps peut-être aussi provoquer des étonnements aussi et de la curiosité. Oui, et je pense que effectivement ces moments-là sont importants, et peut-être aussi les notions que nous venons d'évoquer me semblent aussi être assez centrales, et excusez-moi peut-être un petit peu du terme que je vais utiliser, mais pour que l'action culturelle devienne un alibi du projet artistique global, c'est-à-dire que pour que vraiment il y ait sens, et pour que du coup on ait vraiment des actions, et sous le couvert de ce que on venait d'évoquer ensemble, c'est-à-dire l'importance d'accompagner l'individu dans sa prise de conscience de ce qu'il est, dans son expression, dans son mode de pensée, que ça va être aussi ça qui va pouvoir guider finalement la mise en place d'un certain nombre de projets et d'actions.
Oui, en effet, on va vraiment partir aussi de l'envie des habitants. On va essayer de répondre à ces envies en mettant en effet des projets en place. On va partir aussi des bilans de ces projets, des questionnements qu'on se pose en fin de résidence, des points faibles, des points forts, de l'envie de certains de réitérer des projets. Tous ces éléments de bilan, etc., vont nous donner aussi des éléments à moudre pour créer ensuite le reste, en effet, de notre programmation culturelle à l'année.
Cela veut dire, Mathilde Houdin, qu'il y a un très gros travail de connexion avec les différentes structures, vous évoquiez les habitants, du territoire concerné.
Oui, c'est un travail de tous les jours, c'est un travail de longue haleine de trouver à la fois les relais, de créer des relations de confiance, d'être à l'écoute de chacun aussi pour comprendre là où il est important qu'on soit, aussi de créer avec eux, puisqu'en effet, par exemple, dans nos projets d'éducation artistique et culturelle, on ne va pas proposer des projets clés en main, mais vraiment des projets que l'on va
bâtir,
ensemble, en effet, avec les relais, avec les médiateurs sur le territoire et en effet, quand autant que c'est possible, avec les participants eux-mêmes et les habitants.
Cela veut dire aussi que, avec les années faisant, les gens ou les acteurs ou les associations ou certains établissements scolaires vous sollicitent aussi, vous disent on a peut-être telle envie, tel projet, est-ce qu'on peut se croiser, est-ce qu'on peut faire ensemble?
Oui, on a en effet à la fois ces deux niveaux-là, des éléments qu'on va pouvoir proposer et tisser
Oui.
ensemble, et puis aussi des demandes de certaines structures, d'établissements scolaires, et on va essayer en effet de faire naître des projets en mixant aussi toujours ces publics, en proposant, en effet, on est à votre écoute, vous avez envie de travailler sur tel élément, alors on peut vous proposer certaines thématiques, certains ensembles. Vraiment, c'est une discussion pour faire naître ensemble des idées et répondre aussi à la fois à leurs attentes, qu'elles soient pédagogiques, sociales, etc. Et à la fois toujours d'aller dans cette démarche de découverte, d'expérimentation et de création ensemble.
De fait aussi, certains publics se trouvent aussi encore un peu éloignés, utilisons ce terme, des lieux culturels ou voire aussi encore de pratiques culturelles. Alors vous parliez des EHPAD tout à l'heure aussi également, qui sont un des points aussi d'entrée pour l'action culturelle que vous développez. Prenons aussi peut-être des personnes en situation de handicap. Est-ce que là aussi la structure du centre de rencontres culturelles et de rencontres d'Ambronay va aussi, tisse aussi des liens auprès de ces publics, ou en tout cas cherche à mettre en place, à associer aussi cette partie de la population aussi à ces actions.
Bien sûr, c'est très important d'être présent auprès de ces publics-là. Et puis, il faut aussi évoquer le fait que nous travaillons au sein aussi d'une convention cadre où nous avons aussi du coup des attentes institutionnelles. Il faut aussi du coup l'évoquer. Mais en tout cas, en effet, on va répondre aux désirs des EHPAD, des centres sociaux, des publics handicapés. Donc, vraiment par différentes mesures, que ce soit du coup sur des événements plus ponctuels, sur des éléments comme une politique tarifaire plus adaptée, ou des événements sur un plus long terme, sur la mise en place de projets auprès de ces publics en particulier, mais toujours avec le désir aussi de ne pas faire de ce public une catégorie en
C'est
particulier
ça.
et de le laisser comment expliquer, de le cibler uniquement auprès de lui, mais vraiment de créer un mélange et une mixité avec les autres publics. C'est-à-dire que par exemple, dans certains projets, on va certes travailler avec des résidents d'EHPAD, mais notre volonté, c'est aussi qu'ils travaillent en transversalité avec
C'est ça.
des enfants d'une autre école. C'est travailler avec le centre d'accueil des demandeurs d'asile d'Ambérieu-en-Bugey, mais aussi les lier avec des enfants de centres aérés. C'est vraiment de créer une mixité pour qu'elle soit aussi un échange de connaissances entre les publics et de ne pas seulement catégoriser sur une partie de ces publics, mais vraiment de créer un lien ensemble.
Oui, quand Roland Barthes évoque contrainte de partage, ça veut dire qu'il faut aussi passer au-delà des frontières, bousculer les cloisonnements, bousculer les catégorisations, vous l'évoquiez, hein, justement, aussi à travers de vos propos, ce qu'on pourrait aussi avoir tendance, hein, quelquefois, à se dire, à vouloir un petit peu concevoir ou imaginer des pratiques ou des modalités d'intervention artistique pour des publics spécifiques, ce que je ne pense pas, mais j'ai l'impression aussi que vous êtes aussi sur ce même diapason, si nous pouvons rester également aussi sur ces termes musicaux, et que là, il y a quelque chose d'extrêmement important, et effectivement, de faire en sorte de travailler au décloisonnement, à essayer de défaire cet esprit de catégorisation qui peut nous guetter très rapidement aussi et très fortement, même dans le champ de l'action culturelle.
Oui, tout à fait. C'est vraiment essayer de briser ces frontières et de faire en sorte de proposer certes des éléments culturels auprès de ce public, mais en effet de briser ces frontières et de faire en sorte qu'ils se retrouvent au milieu aussi d'un groupe autre.
Et il y a eu, si on prend, je pense particulièrement à l'ITEP, hein, qui est tout proche aussi d'Ambronay, des projets différents auxquels ils ont pu participer. Est-ce que ce public-là, alors on évoque le désir du côté de l'institution culturelle, qui est le Festival Lambronais et le Centre culturel de rencontre. Est-ce que vous sentez, on sait qu'il y a le problème de communication, c'est-à-dire il y a ce désir d'institution, il y a quelquefois aussi ces personnes qui ont du mal aussi à aller quelquefois au-devant, tout simplement en se disant c'est peut-être pas fait pour moi, ou je ne connais pas, ou j'ai pas eu accès à ça. Enfin, la circulation de l'information, la manière aussi de pouvoir approcher ces publics, fait que quelquefois, ils n'osent encore pas forcément franchir les portes aussi pour aller se lancer dans ce type d'aventure, en tout cas.
Oui, c'est vrai, vous pointez un problème qui est quotidien auprès de nous, c'est qu'on est perçu comme en effet comme le Festival d'Ambronay, comme un festival de musique ancienne et comme un endroit élitiste. Mmh. Et justement, nos actions culturelles nous permettent d'aller à la rencontre de ces publics et de leur faire prendre conscience qu'on est vraiment là en fait pour rendre accessible cette musique et pour créer ce lien. En effet, eh bien, il faut aller à leur rencontre, il faut leur présenter les choses, et aussi du coup ces projets là qu'ils comprennent que eh bien c'est aussi pour eux. Et c'est en effet par l'expérience que les barrières se brisent.
Et les artistes que vous invitez, ou les artistes qui sont présents aussi dans les différents aspects de la programmation du festival, c'est aussi des valeurs sur lesquelles ils se retrouvent quand vous les évoquez aussi avec eux, ou que de par leur présence à un moment ou à un autre, ils vont aussi être amenés à certains moments à partager ces moments avec d'autres publics, mais qui les amène, qui les oblige quelque part même à aller au-delà simplement de l'interprétation de l'œuvre, mais dans un autre espace de rencontre et à essayer de trouver les modalités de cette rencontre.
Oui, en effet, on va essayer en effet de faire en sorte que l'artiste ne soit pas seulement interprète de son œuvre, mais qu'il soit en lien avec les publics. Et dans ce cas-là, on va créer, à la fois pendant le festival, mais également pendant les temps de résidence lors de la saison à Ambronay, des moments de rencontre privilégiés avec les publics, qui vont prendre la forme de répétitions publiques, de concerts que l'on appelle des impromptus. Une multitude d'actions qui va leur permettre d'être plus proche du musicien, du chanteur, et aussi de pouvoir ainsi à la fois avoir des clés de compréhension et des clés d'écoute pour mieux aborder l'œuvre qui est interprétée.
Peut-être Mathilde Houdin, quels sont peut-être un peu pour cette année, parce que nous sommes au mois de juin, le festival approche, hein, puisque là c'est le mois d'octobre, mais il se passe plein de choses tout au long de l'année. Quels sont peut-être un peu les, si je peux dire de cette manière, les projets phares un peu qui sont en route actuellement sur le champ de l'action culturelle au Centre culturel de rencontre?
Alors, eh bien, nous avons, en effet, nous sommes en train de mettre en place des actions culturelles pour l'année prochaine. Un de nos gros projets, en tout cas de territoire, s'intitule « Les Arts Caméléons ». Et nous entamerons notre troisième et dernière année d'intervention artistique sur le territoire, où nous travaillons du coup avec le quartier Gare d'Anverrier et la vallée de l'Albarine notamment, autour du coup de la découverte de l'exploration musicale et de la danse. Donc ça va être un projet assez enthousiasmant pour cette dernière année. Et puis on va également poursuivre dans le champ de l'expérimentation un projet avec un jeune ensemble émergent qui s'appelle Palisander, qui est composé de quatre flûtistes anglaises qui travaillent la flûte de façon remarquable, et qui vont nous permettre du coup d'interroger notre rapport public musicien, notre rapport à la scène. Nous allons interroger des notions comme la spatialisation. Donc vraiment cette année, ça va être une année aussi pour continuer à nous interroger sur la place du spectateur, la place du musicien, et essayer aussi de trouver voilà des nouvelles formes de concerts, d'interprétations, pour continuer à placer le public au cœur de ces projets. Et puis bien sûr, nous allons poursuivre toute une saison de résidence de jeunes ensembles émergents au centre culturel d'Ambrenais, avec une saison d'impromptu, de répétitions publiques, d'événements différents comme la chasse aux œufs. Nous avons également toute une programmation de visites patrimoniales à proposer au public famille, au public adulte.
Oui, Mathilde Houldin, il semble aussi important le questionnement que vous souleviez tout à l'heure, à savoir se reposer, la place, le rôle du spectateur, le rapport à la scène, le rapport, on évoquait la spatialisation, c'est-à-dire même la, on pourrait dire le concept de concert aussi en tant que tel se re-questionne, parce qu'aujourd'hui les formes artistiques et les différentes disciplines artistiques questionnent de manière diverse et bouleversent aussi, ou en tout cas re-questionnent très fortement ces rapports, et en même temps cela nous interroge aussi sur le fait qu'on a une culture aussi beaucoup plus globalisante, marchandisante aussi à certains aspects, donc se reposer les fondamentaux semble extrêmement essentiel pour quelle que soit l'institution culturelle de diffusion, de création ou aussi qui développe une entrée en matière sur les pratiques artistiques vis-à-vis d'un public ou d'une population, d'un territoire.
Oui, en fait, il est essentiel aussi d'essayer de nouveaux éléments, de nouvelles approches aussi. Mmh. En effet, comme vous le dites, on est vraiment dans un questionnement sur le rapport musicien-public. On va du coup utiliser aussi ces actions culturelles pour expérimenter, pour tester des choses, pour remettre en question. Et à la fois aussi partir du retour des publics, de leurs ressentis pour voir ce qu'on peut essayer. Ça me fait notamment penser à un projet que nous avons mis en place cette année qui s'intitule Théories et pratiques, avec un jeune ensemble de musique baroque qui s'appelle Des Contre-sujets, où nous avons dans une des parties de ce long projet qui a duré une année avec des établissements scolaires notamment du territoire, repenser en effet la participation du public grâce à un système notamment de QR code avec des questions qui entrecoupaient les morceaux musicaux sur un contenu qui avait été vu avec les élèves et du coup qui permettait d'avoir aussi un certain lien avec eux, avec des clins d'œil, etc. Mais c'est toutes ces façons-là qui nous permettent aussi du coup de remettre en question cette participation, de proposer des choses plus interactive, plus participative, plus collective. Voilà, ces projets en tout cas d'action culturelle nous permettent en tout cas de nous interroger là-dessus. Et d'un autre côté, d'accueillir aussi des publics qui n'ont pas forcément aussi les codes du spectacle vivant. Et de leur permettre d'avoir aussi un champ de liberté quand eux, en effet, ils viennent en spectacle et que, ils vont prendre de nombreuses photos, ils vont filmer. Et bien, c'est aussi ça, en fait, d'accepter ces publics-là et d'avoir des rencontres particulières et propres à chaque ensemble, à chaque public.
Voilà, on voit à travers vos propos, Mathilde Houldin, combien justement la culture et les arts en général sont importants et nécessaires parce qu'elles vont nourrir l'autonomie de pensée de chacun, permettre aussi, lorsqu'on parle de publics très différents, de redistribuer des rôles, des compétences, de mettre en mouvement aussi l'individu dans sa pensée et du coup cela l'affecte, cela le change, cela le met en mouvement et c'est aussi bien cela qui va nous permettre peut-être d'aider en tout cas à faire que chacun soit contributeur ou acteur à l'intérieur du commun qu'est notre société d'aujourd'hui. Donc on voit bien toute la nécessité de tout ce maillage de terrain, quels que soient les acteurs culturels, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, l'importance aujourd'hui et la place et le rôle important qu'ils tiennent dans les tissages, si je peux dire, aussi de notre société d'aujourd'hui. Ben, merci beaucoup à vous d'avoir accepté ce moment de réflexion commune, Mathilde Houldin. Et puis, on reviendra vers vous parce que, comme on le disait, l'actualité du festival est très présente. Mais les enjeux du festival et la prochaine édition approchent. Donc, nous aurons l'occasion peut-être de revenir sur certaines de ces actions et d'évoquer cela avec vous. En tout cas, merci encore et bonne journée à vous.
Merci beaucoup et très bonne journée à vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Résonance sur Radio B. Nous venons d'entendre Étude 2 du compositeur Karl Negelen, interprétée au piano par Eve Risser. Étude 2 fait partie d'un album consacré principalement à la rencontre entre un compositeur, Karl Negelen, et deux improvisateurs, Eve Risser au piano, que nous avons entendu au piano préparé, et Joris Rühl à la clarinette. Un album consacré pleinement à la rencontre de ces trois artistes et qui, j'espère, vous donneront envie, par l'extrait que nous avons entendu, d'aller plus loin dans la découverte de ces trois artistes. Donc, nous continuons, bien évidemment, notre émission d'aujourd'hui, et aussi avec cette pensée du philosophe Roland Barthes qui nous accompagne depuis le début de cette émission, où il dit ceci: le monde est plein de voisins discrets avec qui il faut partager l'autre. Le monde est précisément cela, une contrainte de partage. Cette citation nous invite donc à nous interroger notamment sur comment l'art, les pratiques artistiques peuvent nous aider à redécouvrir le rapport à autrui, à l'autre, ou comment réapprendre quelque part à cultiver l'art et la rencontre et découvrir à travers cette expérience que c'est une position productive de vitalité propre. Alors je souhaiterais aussi également, pour approfondir ou poursuivre notre réflexion commune, emprunter quelques propos du philosophe Jean-Luc Nancy, notamment quand il écrit ceci: qu'est-ce qu'un corps, un visage, une voix, une écriture, non pas invisible, mais singulier? Quelle en est la nécessité singulière dans le partage qui divise et qui fait communiquer les corps, les voix, les écritures en général et en totalité? Le semblable me ressemble en ce que moi-même je lui ressemble. Nous ressemblons ensemble, si on peut dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'original ni d'origine de l'identité, mais ce qui tient lieu d'origine, c'est le partage des singularités. Voilà, c'était un petit peu pour compléter et introduire aussi l'interview que nous allons avoir dans quelques secondes avec notre deuxième invité de cette émission d'aujourd'hui, Charline Grisard, qui est médiatrice chargée de la programmation culturelle au musée de la Bresse, domaine des Planons, dans l'Ain. Bonjour Charline Grisard.
Oui, bonjour Alain.
Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous dans cette émission de Résonance. Alors, on connaît bien sûr dans l'Ain, parce que c'est un lieu très important sur le point de vue de la culture et notamment aussi sur l'aspect muséal, le musée de la Bresse, domaine des Planons, qui est implanté, Charline Grisard, sur un domaine agricole assez vaste et dans un cadre naturel assez exceptionnel.
Oui, tout à fait, effectivement. Donc le musée, en fait, est composé de deux parties. On a vraiment la partie historique du domaine des Planons, avec les bâtiments de la ferme qui ont été construits entre le XVIIe et le XIXe siècle et qui ont été classés monuments historiques dès 1938. Oui. Et on a également donc le musée contemporain qui a été bâti, lui, en 2005 et qui présente donc les expositions permanentes et temporaires du musée.
Et je crois qu'on a à peu près, il est vaste, hein, je crois que c'est à peu près 3000 mètres carrés.
Effectivement. Voilà, oui, c'est effectivement sur plusieurs milliers de mètres carrés, c'est assez important. Hein. Vous avez accès, déjà, le parcours muséographique est très important par lui-même.
C'est ça.
Et puis ensuite, vous avez accès à tout le domaine des Planons avec les bâtiments historiques. Et puis également, donc, tout ce parcours sur le domaine pour en voir encore aujourd'hui, bien sûr, les parties de production, disons, de cet ancien corps agricole. Avec les prés, les champs, les vignes, etc.
Et d'ailleurs, c'est un lieu de promenade, d'escapade verte, si je peux dire, hein, pour de nombreux résidents du département et bien sûr aussi des touristes, hein, qui ont un grand plaisir, je crois, à parcourir ce domaine naturel. Pour le situer, pour nos auditeurs, hein, on se situe entre Lyon et Genève, en allant en direction un petit peu de Mâcon, hein, sur la commune de Saint-Cyr-sur-Menton, hein, pour la situer. Alors, Charline Grisard, On a commencé avec notre premier invité, Mathilde Houdin, de réfléchir justement à comment les lieux de culture peuvent être aussi des espaces aussi de rencontre aussi pour les singularités que chaque individu est précisément. Et nous allons essayer justement avec vous et à partir du rôle et de la place du musée de la Bresse aujourd'hui dans l'Ain et dans ses missions, évoquer peut-être, et j'imagine que cette réflexion bien sûr vous accompagne en permanence, ce qu'est un musée aujourd'hui, son rôle, sa place, est-ce que c'est un lieu de vie, est-ce que c'est un lieu d'expérimentation, comment diverses singularités peuvent se rencontrer dans le musée d'aujourd'hui. Alors j'imagine que c'est aussi toute une réflexion qui vous accompagne, à la fois pour rendre disponible, bien sûr, on évoquait rapidement l'historique, donc ce lien entre le passé de ce lieu, mais aussi son présent et aussi son futur, et que c'est un travail permanent de réflexion au niveau de l'équipe.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est vraiment ça. Le musée aujourd'hui, effectivement, c'est un lieu de vie, un lieu de partage. Et on a vraiment à cœur de rendre accessibles les collections, le monument historique, vraiment rendre tout ça accessible au public le plus large possible. Le but, c'est vraiment que les locaux, la population, que chacun arrive en fait à s'attribuer ce patrimoine départemental. Donc c'est vrai que c'est une réflexion qui nous accompagne en fait pour le développement de chaque facette, si je peux dire, du musée, aussi bien dans la mise en place de nouvelles expositions que dans la mise en place de nouveaux moyens de médiation permanents ou encore d'ateliers, d'animation, etc. On essaie vraiment voilà, que chacun puisse trouver sa place et trouver un moyen pour comprendre, s'attribuer, s'émerveiller en fait devant le patrimoine que l'on a ici au musée de la Bresse.
On sent bien sûr à travers vos propos, et on le mesure depuis de nombreuses années, Charline Grisard, qu'il y a une grande évolution dans ce qu'était le musée il y a encore quelques années en arrière, un lieu où plutôt où les œuvres étaient enfermées, où peut-être que on avait l'impression que c'était plutôt un endroit spécialisé, peut-être pas forcément ouvert à tout le monde. Aujourd'hui, le musée a changé il y a une très 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 nette évolution sur ce rapport aux œuvres, au rapport de ce qu'est un musée et, comme vous le disiez, sa relation avec une population.
Oui, tout à fait. Non, je pense que maintenant, il y a eu vraiment un gros changement. Et là, quand on se tourne vers le futur, on réfléchit à ce que peut être un musée au 21e siècle. Et je pense que c'est vraiment important voilà, de le comprendre, que ce musée, c'est vraiment une maison, en fait, pour tout le monde, un lieu de découverte, de partage, d'échange, d'émerveillement. Et chacun doit pouvoir y trouver sa place. On est vraiment sur un musée qui est beaucoup plus participatif, je pense, aujourd'hui, et on veut vraiment être en contact permanent avec la population, être à l'écoute de leurs envies, de leurs besoins, et voir avec eux justement comment on peut construire le patrimoine de demain, en fait.
Donc du coup, il y a aussi quelque part le rôle, je dirais aussi intégrateur que peut-être le musée aujourd'hui, ou comment il peut jouer aussi ce rôle d'intégrateur au sein de la société.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que voilà, on est vraiment là pour que le public, la population s'ouvre au monde, à la société, et c'est vrai que le musée a vraiment un rôle là-dessus à jouer.
Ce qui ne doit pas être toujours non plus évident, parce que on peut, lorsqu'on va parler d'une population, ne serait-ce que du territoire de l'Ain, elle est très hétérogène, cette population. Donc, comment arriver à proposer une offre forcément très diversifiée, mais aussi de satisfaire des intérêts aussi et des besoins pluriels aussi également?
Alors c'est vrai que pour ça, du coup, on mène différentes actions. Par exemple, pour les personnes qui sont éloignées plutôt financièrement du musée, on va réussir à proposer du coup des premiers dimanches du mois gratuits sur la saison. On va également proposer des animations dans le cadre d'événements nationaux comme la Nuit européenne des musées, pardon, et les Journées européennes du patrimoine. On va avoir des animations gratuites. Donc là, pour ces journées est là. L'accès au musée, bien sûr, est gratuit. Ça permet de découvrir sans dépense aucune les collections, le site du musée, et en plus de profiter généralement d'une offre artistique qui est proposée ce jour-là gratuitement. On a aussi d'autres actions qui sont proposées pour les personnes qui peuvent être éloignées physiquement, oui. qui vont avoir du mal en fait à se rendre au musée, qui ont des barrières physiques. Mmh. Par exemple, là, le site a été mis vraiment en accessibilité pour ces personnes-là.
C'est ça.
Donc il y a les espaces extérieurs ont été réaménagés, il y a des places de parking, des cheminements en pente douce, des installations de rampes de franchissement, notamment pour les bâtiments historiques. Voilà, tout cela a été pensé pour ces personnes-là qui vont avoir du mal à se déplacer physiquement et qui peuvent quand même se rendre, bien sûr, au musée. Et puis, on a aussi les personnes qui vont avoir un petit peu des soucis de compréhension et d'appréhension, du patrimoine. Donc là, on va pouvoir leur proposer vraiment un accueil et une médiation personnalisée, adapté vraiment selon les besoins de ces personnes-là. C'est sur réservation, donc on prend contact justement avec le référent de ce groupe et il va vraiment y avoir un échange pour comprendre les attentes de ce type de public, et le médiateur va vraiment savoir s'adapter, notamment pour la médiation proposée. Mmh. On peut avoir des visites qui sont plutôt axées sur tel point ou alors des visites plutôt allégées avec bien sûr un vocabulaire adapté. On va pouvoir proposer plutôt également des ateliers, je pense notamment aux jeunes, qui préfèrent généralement expérimenter, que ce soit plus participatif. Enfin voilà, c'est vraiment en fonction des besoins du coup de ce type de personnes. Nous, on est vraiment là pour s'adapter et que les personnes puissent passer un moment agréable au musée et découvrir ce patrimoine comme n'importe qui en fait.
C'est ça, on sent bien dans vos propos ces dimensions très importantes, espace d'accueil, espace de rencontre, espace d'échange aussi. Oui. Et puis tout à l'heure, vous évoquiez aussi qu'à certains moments, cette rencontre pouvait aussi se cristalliser dans un phénomène de pratique aussi artistique. C'est-à-dire que là aussi, il y a rencontre avec l'œuvre, il y a rencontre avec une manière de pouvoir mettre en rapport très étroit ce que le musée souhaite proposer en termes d'œuvre, en termes de dimension artistique, et aussi l'individu dans sa rencontre, l'accompagner au mieux possible, mais en même temps, peut-être être aussi un espace, j'évoquais tout à l'heure ce mot d'expérimentation, de pratique, d'expérience, c'est-à-dire qu'à certains moments donnés, le musée et votre équipe également va aussi proposer aux visiteurs ou à certains publics d'entrer aussi dans une pratique artistique.
Oui, tout à fait. On propose des ateliers pour que les visiteurs puissent vraiment appréhender en fait le patrimoine qu'ils ont sous les yeux. Donc ça va être des ateliers par exemple sur l'architecture, parce que c'est vrai que on explique ce qu'est notamment le piset, le torchis, etc. Donc là, nous, on souhaite vraiment que le spectateur devienne visiteur devienne acteur plutôt, et donc qu'il expérimente lui-même ses techniques. On va proposer également des ateliers notamment sur les émaux, puisqu'on a donc des collections qui présentent ces émaux qui sont assez exceptionnels au musée. Donc une fois qu'on a compris un petit peu le principe, le but c'est d'expérimenter pour vraiment que la compréhension de ce patrimoine soit la plus complète possible.
J'évoquais aussi tout à l'heure, où j'utilisais le terme de singularité, et que peut-être aussi dans cet espace, ou aussi dans les moments de pratique que vous venez d'exposer, cela met aussi en exergue finalement les singularités aussi de chacun. C'est-à-dire chacun s'expose aussi vis-à-vis de l'autre dans ces moments, fait apparaître aussi l'être singulier qu'il est, et peut-être aussi... que dans ces moments-là, et peut-être que le musée peut-il contribuer aussi à cette prise de conscience, si je peux dire, du différent, ou de que la différence aussi, puisque nous sommes semblables, mais pas totalement, chacun avec ses particularités, ça crée de la tension, mais cette tension non pas négative, mais elle fait ressortir, elle peut aussi promouvoir, elle fait travailler aussi finalement ce que peut-être la relation à l'autre.
Oui, tout à fait. C'est vrai que ce sont des moments qui sont assez forts. On est dans vraiment un processus de création pendant ces ateliers. Et je pense que chacun peut y trouver sa place et même se révéler.
C'est ça.
Voilà, parce que c'est vrai que bon, quand on est dans la société du quotidien, voilà, tout est un petit peu cloisonné. Mais c'est vrai que dans ces moments-là d'atelier créatif, je pense que chacun peut y trouver sa place et justement puiser vraiment une force dans sa singularité. Et là où effectivement on ne va pas se sentir forcément à l'aise ou doué dans la vie quotidienne, disons, et bien là on va vraiment se révéler. Et c'est ça, nous, qui est très intéressant. Et quand on arrive justement à voir que les publics que l'on a et à qui on fait découvrir ça, c'est vraiment très fort et très touchant.
J'imagine.
Et là on se dit qu'on a vraiment atteint notre objectif quand les personnes arrivent à se révéler, à découvrir une nouvelle facette en fait de leur personnalité et arrivent à voir en fait qu'ils peuvent faire des choses aussi merveilleuses.
Donc du coup, c'est aussi un peu faciliter les oser, le désir de s'aventurer, le oser faire, le oser dire, ou et en même temps peut-être aussi quelque part favoriser l'étonnement, voire aussi la curiosité. Alors curiosité de ou l'étonnement devant ce que je peux voir et proposer par l'intermédiaire de l'espace muséal, mais aussi de ce que peut-être l'autre celui ou elle qui est à côté de moi, comment lui aussi s'aventure. Et donc retrouver aussi ces qualités très importantes de curiosité, d'étonnement.
Oui, non, c'est sûr que toutes ces valeurs-là sont vraiment développées là à travers les médiations qu'on peut proposer là au musée. Et puis vu qu'en plus ce sont des moments vraiment en groupe, c'est vrai que c'est assez fort. Hein, on va avoir des ateliers où ça va être vraiment en groupe du collectif et d'autres où c'est plutôt individuel. Mais c'est vrai que vu qu'on a cette proximité du coup entre les créations, ça permet vraiment de voir ce que l'autre peut faire. Et après on est vraiment dans l'échange du coup sur ce qui a été créé.
Alors je dirais même que dans le musée de la Bresse, domaine des Planons, depuis déjà plusieurs années, on pourra prendre, et vous pourrez en parler aussi tout à fait aisément, Charline Grisard, on vient de signifier, de parler des ateliers d'expression possible, mais aussi le musée est aussi accueil d'expressions, d'artistes aussi, différents et autres. Donc il est aussi l'espace de rencontre, de miroir, d'exposition, de monstration possible pour aussi un certain nombre d'expressions d'artistes, de territoires ou d'individus du territoire.
Tout à fait, oui, on développe depuis plusieurs années vraiment des projets culturels avec des institutions spécialisées. Mmh. Et l'idée, c'est vraiment que le musée soit un lieu de participation du coup pour tous, pour tous les individus. Et donc, ça fait plusieurs fois maintenant que des expositions du coup sont organisées pour présenter justement les œuvres d'artistes amateurs qui sont effectivement différents ou dans des situations de fragilité, mais montrer voilà que là aussi on a quand même cette fibre artistique, ces personnes sont capables de grandes choses. Et l'idée, c'est vraiment de leur laisser un espace d'exposition à part entière dans le musée et qu'ils soient du coup exposés comme les artistes qu'on va retrouver du coup dans les expositions d'un musée. Donc notamment, on a organisé l'exposition avec Résonance Contemporaine en 2014, l'exposition Chatran, voilà, qui a montré les œuvres de Virginie Laurent, crée au Centre Social de la Grande Ressouze. Et puis donc plus récemment, cette année, on a monté l'exposition Exil Artistique, toujours en partenariat avec Résonance Contemporaine. Donc cette exposition, voilà, permet de valoriser les œuvres de deux artistes amateurs qui sont d'origine étrangère, puisque donc l'idée, c'était vraiment de montrer la diversité culturelle qu'on peut retrouver sur ce territoire de la Bresse. Et l'exposition sera visible jusqu'au 15 novembre du coup de cette année.
Peut-être on
donc,
peut
c'est
rappeler
vrai que c'est vraiment important pour nous de développer là ces projets culturels pour valoriser tous les individus.
On peut rappeler peut-être le nom de ces deux artistes, Charline Grisard, par exemple, qui sont accueillis, je crois, jusqu'au mois d'octobre ou novembre, hein, quelque chose comme ça.
C'est ça, jusqu'au 15 novembre, tout à fait. Donc, on présente notamment les œuvres de Juan José Rodriguez, dont les parents sont originaires d'Amérique latine et qui habitent maintenant en Bresse. Et on a également Janine Courtois, qui est bressane d'adoption d'origine africaine, du Congo, plus précisément. Voilà. Donc, ce sont des œuvres très colorées, assez très chaleureuses. Je vous invite vraiment à venir les découvrir d'ici la fin de la saison.
Vous avez tout à fait raison. Je crois que ces deux artistes qui sont d'ailleurs non pas des artistes éphémères, parce que c'est notamment les deux artistes en l'occurrence qui sont présentés au musée de la Bresse, domaine des Planons, peignent depuis de très nombreuses années. Et là, on a vraiment une démarche dans le temps et la durée, donc une démarche d'artiste, vraiment de continuité de travail et d'évolution aussi, bien évidemment, au fur et à mesure de leurs propos artistiques, de leur manière de regarder le monde, leur manière de dire leurs émotions. Et que vous avez raison, l'un et l'autre, d'ailleurs, on parlait de singularité, laisse largement place à justement l'expression de cette singularité et justement leur différence, leur manière de travailler la matière est bien différente, mais d'une richesse et d'une couleur. D'ailleurs, vous évoquez la couleur chez chacun d'eux. Elle est effectivement très présente et elle est transparente avec des manières très, très, très différentes d'ailleurs de jouer sur le jeu et le rapport des couleurs.
Tout à fait. Oui, non, c'est vrai qu'on a vraiment une approche artistique là qui est assez touchante, hein. On sent qu'il y a vraiment un message qui veut être transmis par ces deux artistes. Alors Juan Rosé, c'est vrai qu'on va avoir des œuvres qui fourmillent vraiment de détails. On peut vraiment s'attarder devant chaque œuvre. On a vraiment plein de petits détails, c'est très minutieux. Voilà, on est vraiment dans la finesse. Mmh. Et à côté, Jeanine Courtois, toujours aussi colorée pour ses œuvres, mais on a une approche très différente, un petit peu naïve, oui. Mais là aussi on sent qu'il y a vraiment un message qu'on veut faire passer, et notamment ce qui est assez touchant, c'est de voir cette source d'inspiration qu'elle peut avoir de son pays d'origine, là, du Congo. Mmh. On retrouve vraiment beaucoup de motifs exotiques, africains, c'est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Enfin, je vous en dis pas plus, après, je vous laisserai venir découvrir tout ça de plus près au musée.
En tout cas, là aussi, on peut faire le lien, Charline Grisard, c'est que cet accueil fait aussi sens par rapport à un propos que vous avez souhaité aussi développer cette année aussi dans le cadre du musée.
Oui, tout à fait. Le propos, c'était vraiment de valoriser la diversité culturelle qu'on peut retrouver sur le territoire de la Bresse. C'est vraiment une thématique qui tient à cœur aussi du musée. Notamment, l'année dernière, on avait aussi mis en place une petite exposition Mémoire de Bressan, mm-hmm. qui valorisait justement le parcours de migration, si je puis dire, un petit peu de personnes venant des quatre coins du monde qui sont venues s'installer en Bresse. Et l'idée, c'était vraiment de raconter leur parcours, leur histoire, et de découvrir tout l'intérêt de ces personnes et comprendre vraiment qu'on a un territoire de la Bresse qui est composé d'individus qui sont très différents les uns des autres, mais c'est ce qui crée la force de ce territoire.
Alors avec tout ce que vous venez de nous faire part, Charline Grisard, est-ce que vous notez, à travers tous les efforts, et on peut les souligner et les saluer justement, est-ce que vous sentez que la fréquentation justement de tous ces publics, parce qu'il y a aussi la volonté de l'établissement culturel qui est le musée, il y a la problématique aussi de la communication pour atteindre aussi, en tout cas être sûr que celle-ci puisse aller vers ceux et celles que l'on souhaiterait convier à venir et à leur faire entendre aussi que c'est un lieu partageable pour tous. Il y a la compréhension de cette information. Enfin voilà, toute cette chaîne est une difficulté aussi d'être sûr d'aller vers les populations qu'on aurait envie effectivement d'approcher et de travailler avec elles. Comment se travaille aussi cette question et comment est-ce que vous pouvez constater que effectivement il y a peut-être une fréquentation plus importante de ces publics aujourd'hui au musée de la Bresse et du domaine des Planons?
Alors c'est vrai que c'est là effectivement un souci important que vous soulevez là, c'est vraiment comment toucher ces publics, les informer en fait de ce qu'on peut proposer au musée, qu'ils soient au courant de ce qui se passe pour les faire venir. Alors c'est vrai que c'est pour ça que c'est important en fait de travailler vraiment avec des institutions spécialisées, de développer toujours plus de partenariats pour se mettre en lien justement avec ces personnes-là. Alors je pense que là en fait on est vraiment, si je puis dire, qu'au début en fait.
Oui.
de ce projet là, vraiment, ouais, d'ouverture auprès de ces personnes là. C'est vraiment quelque chose qui doit être travaillé, voilà, quotidiennement, d'année en année, et c'est pour ça qu'on essaie vraiment de mettre en place plusieurs projets, voilà, chaque saison, et ces projets sont toujours plus à développer d'année en année, et petit à petit je pense qu'on arrivera comme ça à créer un réseau vraiment sur le territoire et à se faire connaître vraiment de tous les individus, même les plus éloignés de la culture. Mais comme je vous le disais, je pense qu'on est vraiment au début. Voilà, vraiment, de ce processus-là, et c'est vraiment un souhait, voilà, de pouvoir développer ce type de projet-là sur les années futures.
On évoquait le musée de la Bresse, domaine des Planons, mais vous faites aussi partie de la conservation départementale des musées de l'Ain, qui dépend du conseil départemental de l'Ain. Voilà, cette dynamique que vous venez de nous dépeindre, c'est aussi une démarche que l'ensemble des musées de la conservation mène aussi au sein des différents territoires du département.
Oui, tout à fait. Oui. Là, ce que je vous ai développé dans toute l'interview, effectivement, on va retrouver un petit peu les mêmes points dans les autres musées du département, donc notamment au musée de la Résistance et de la Déportation de Nantua, au musée également du Bugey Valmorais, et aussi également au musée du Revermont. Hein. Les musées, depuis plusieurs années, là, ont été labellisés, bénéficient du label Tourisme et Handicap, oui. Donc notamment, voilà, ce label reconnaît vraiment qu'il y a eu un effort fait par les musées pour accueillir et qu'on propose des installations adaptées pour les personnes handicapées. Donc vous voyez, ça révèle vraiment un souhait en fait de l'ensemble des musées du département d'approcher, voilà, tous les publics et que chacun puisse s'approprier vraiment, comme je vous disais, le patrimoine du département dans son ensemble.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Charline Grisard, de nous avoir fait part un petit peu de tout ce qui est en œuvre, à la fois dans la pensée, mais aussi de manière concrète aussi, et qui se traduit par tout le travail qu'effectue l'équipe du musée de la Bresse, domaine des Planons,
et puis de
nous avoir essayé. Je pense que effectivement, la phrase de Roland Barthes, qui pour la rappeler encore une petite fois, le monde est plein de voisins discrets avec qui il faut partager l'autre. Le monde est précisément cela, une contrainte de partage. Et je pense qu'effectivement, notamment les lieux de culture sont aussi dans cette dynamique. Cette phrase-là est quelque chose d'essentiel pour tout un chacun, bien évidemment, mais aussi pour tous ces lieux qui peuvent nous permettre de nous rencontrer, d'oser en tout cas nous exposer à l'autre et de prendre conscience aussi que c'est dans cet aller-retour entre l'autre et soi que petit à petit nous allons pouvoir exister et que le soi n'existe que dans et par ses relations avec les autres, et intensifier finalement l'échange social signifie aussi intensifier le soi que nous avons. Donc merci encore, Charline Grisard, de nous avoir accompagnés dans cette émission.
Avec grand plaisir.
Et on se dit à très bientôt pour suivre justement l'actualité dans ce domaine au musée de la Bresse, domaine des Planons.
À bientôt, merci, au revoir.
Merci, au revoir. Je remercie nos deux invités, Mathilde Houdin du Centre Culture et de Rencontres d'Ambronay, Charline Grisard du musée de la Bresse, domaine des Planons, pour leur présence dans cette émission. J'espère, chers auditeurs, que vous avez eu du plaisir à vivre ce moment en notre compagnie. Cette émission de résonance a été réalisée avec la complicité de Simon Deborn à la réalisation et à la mise en onde. Cette émission de résonance sera rediffusée vendredi prochain de 14h à 15h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez bien sûr écouter, réécouter quand vous voulez et où vous voulez, aussi longtemps que vous le souhaitez, la présente émission à l'antenne et en podcast, sans modération, sur le site de Résonance Contemporaine, www.résonancecontemporaine.org, ou sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. N'oubliez pas que vous pouvez communiquer vos commentaires sur la page Facebook de Résonance Contemporaine. Merci de nous avoir accueillis chez vous et très belle journée sur Radio B. Thank you.